It is the word
identification, s'il vous plaît,
that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
There's nothing fake.
Nouvel essai.
Qu'est-ce que vous voulez?
Identification, s'il vous plaît.
Bonsoir et bienvenue dans Pop Fiction en direct de la Maison de la Radio, une émission réalisée par Fanny Boyon et François Audouin, préparée par Jérôme Boulet avec l'aide de Lilith Sakian. Bonsoir Laurent Bourdon, le colosse de la Maison de la Radio.
Bonsoir Ali, bonsoir à tous.
En fin d'émission, vous nous proposez un bonus très cannibale.
Oui, un bonus, ce sera peut-être le premier, le seul bonus déconseillé aux âmes sensibles et aux estomacs fragiles. Alors un conseil, dépêchez-vous de finir de dîner.
Tout à l'heure, vous retrouverez la chronique du philosophe le plus chic et le plus pop de la station, Thibaut de Saint-Maurice. Thibaut nous dira pourquoi le nain charismatique Tyrion Lannister, l'un des héros de Game of Thrones, peut changer notre vie.
Un anneau pour les gouverner tous.
Et cette semaine, à l'occasion de la sortie du dernier volet du Hobbit de Peter Jackson, d'après Tolkien, je vous propose d'explorer un genre qui passionne des millions d'amateurs à travers le monde, la fantasy. Du Seigneur des Anneaux au Trône de Fer, nous nous demanderons pourquoi la fantasy séduit un public de plus en plus large, quels sont les thèmes récurrents, les grandes questions philosophiques d'un genre pas toujours féerique.
Pulp ? Non, pop. Pop fiction. France Inter.
Un jour, je me souviendrai de tout ce qui s'est passé, de bon, de mauvais, de ceux qui ont survécu ou n'ont pas survécu.
Voulez-vous la paix ou la guerre ?
Je veux la guerre. Allez-vous me suivre? Une dernière fois.
Avec nous, autour de la table, un riche plateau pour parler du succès mondial de la fantasy. Bonsoir Anne Besson. Vous êtes maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois. Et vous avez notamment publié La Fantasy en 50 questions. Bonsoir Tristan Garcia.
Bonsoir.
Vous êtes romancier, philosophe et vous co-dirigez au PUF, une collection consacrée aux séries télé. Bonsoir Laurent Aquenin.
Bonsoir.
Critique et historien de cinéma, vous avez notamment publié Mythes et idéologies du cinéma américain en poche chez Vendémiaire. Bonsoir Stéphane Marsan.
Bonsoir.
Vous dirigez, vous avez fondé les éditions Bragelonne, vous les avez co-dirigées, des éditions spécialisées dans la science-fiction en général et la fantasy en particulier. Ce mois-ci, vous publiez notamment un essai sur Tolkien.
Absolument, oui.
L'effigie des elfes de Michael Delvaux. À mes côtés, un avatar de Xenia, la guerrière, Guillemette Odissino, qui officie à Télérama, grande fan de fantasy. Hein.
Oh, grande, oui.
Et puis Christine Siméon, pardon, journaliste à franceinter.fr, vous nous ferez découvrir notamment les secrets du designer de l'univers Tolkien au cinéma. Alors Anne Besson, qu'est-ce que la fantasy? Alors si j'en crois le Robert... C'est un genre littéraire mêlant le fantastique et le merveilleux à des légendes, contes, faits historiques ou à la science-fiction. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, Anne Besson ?
C'est une bonne définition. Alors, en général, on distingue fantasy et science-fiction, ces deux genres de l'imaginaire, mais qui sont bien distincts, avec d'un côté du futur, des vaisseaux, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, mais la fantasy va plutôt être du côté de la recréation d'un passé mythique, d'un néo-Moyen-Âge, avec typiquement des créatures merveilleuses comme des dragons. C'est un genre qui naît dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans l'Angleterre victorienne, et qui est assez attaché à cette nouvelle modernité et à une volonté face aux usines qui commencent à pousser partout de se rattacher à des traditions plus anciennes, à la nature, au sacré.
Alors peut-on parler de merveilleux quand on évoque la fantasy ?
Tout à fait, la fantasy c'est une littérature, c'est un genre du merveilleux, c'est un genre qui postule que le surnaturel est là, dans le monde près de nous de manière tout à fait naturelle, alors que le fantastique, par opposition, va faire surgir le surnaturel dans notre monde de façon à y faire choc, effroi, fracture. Donc le fantastique, c'est un genre où le surnaturel fait peur, alors que la fantasy est un genre où on est émerveillé, on est enchanté par ce qui se produit dans le monde secondaire.
Alors autour de la table, quelles sont les idées reçues, les clichés qui méritent d'être décollés de la fantasy ? Stéphane Marsan.
Le manichéisme ? Très longtemps, on a considéré que la fantasy, c'était le bien contre le mal et que les personnages étaient en carton-pâte. On voit depuis longtemps que c'est pas du tout vrai, que les personnages ont des choix à faire, évidemment, des valeurs, des décisions majeures. Mais finalement, il est arrivé un peu à la fantasy ces 10 dernières années, ce qui est arrivé au western avec Sergio Leone, c'est-à-dire les codes moraux ont explosé et du coup, on a des personnages qui sont beaucoup plus authentiques et auxquels, du coup, un lectorat beaucoup plus vaste peut s'identifier.
Tristan Garcia, les idées reçues, les clichés qui vous agacent.
Un reproche classique qu'on ne fait plus trop maintenant, c'est le fait que la fantasy soit un genre réactionnaire politiquement. Un genre qui, comme l'a dit Anne Besson, est historiquement attaché à une réaction contre la modernité, contre la révolution industrielle, contre la rationalisation, la laïcisation du monde. Et que donc ça représenterait par essence un genre anti-moderne. Et Game of Thrones est l'apparition, par exemple, d'une œuvre qui est très commentée par des gens qui se veulent très progressistes, par exemple, même s'il y a des discussions sur les stéréotypes raciaux, par exemple. Du coup, ce lieu commun est en train de voler en éclats.
Anne Besson.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit mon ami Tristan, et j'y ajouterais, ça va avec la question de la misogynie. Qui voilà est très directement là encore discuté l'objet de vrais débats dans le milieu de la fantasy. On a des stéréotypes qui perdurent mais qui sont retravaillés, qui sont mis à distance et qui sont enrichis.
Guillemette Odissino.
Mais aussi il y a les gens qui n'aiment pas la fantasy ont toujours tendance à dire aussi que c'est cucu. Parce que les elfes.
J'en faisais partie, je dois bien l'avouer.
Voilà, non, mais c'est vrai, parce que les elfes qui planouillent dans la forêt, les nains gentils, parce que le nain, tout le monde pense le nain de jardin, oh mon Dieu, non, mais c'est vrai, enfin voilà, donc ce côté comme ça, romantique, un peu kitsch, colle aussi un peu à la fantasy, mais grâce aux adaptations des Seigneurs des Anneaux et à Game of Thrones, là, le romantisme s'est décollé vite fait. Quand
Christine Siméon.
Et autre cliché, peut-être, c'est pour les plus jeunes, pour les enfants, c'est de la littérature jeunesse, voire de la sous-littérature, alors que. Quand on connaît Tolkien, on sait qu'il y a 100 livres entre deux lignes. Donc voilà.
Laurent Aquenin.
Oui, que ce soit de la littérature ou du cinéma pour enfants ou réservé au jeune public et que ça soit apparenté au conte de fées dans l'acception la plus mièvre ou la plus infantilisante du terme. Et on voit bien que même Peter Jackson, avec son adaptation du Hobbit qui n'est pas parfaite, a tiré ce qui était à la base un roman pour enfants vers une imagerie beaucoup plus adulte qui était quand même présente malgré tout en filigrane dans le livre d'origine.
Alors, quels sont les éléments essentiels que l'on retrouve dans la plupart des œuvres de fantasy ? Le Moyen-Âge, les mythes germaniques et nordiques, Anne Besson ?
La magie. La magie, ça peut être considéré comme le trait définitoire, si on en cherche un, qui permet de distinguer la fantasy de tous les autres genres et qui peut prendre des formes très diverses. Les auteurs sont souvent appréciés en fonction du système de magie qu'ils ont su mettre au point. Et justement, l'opposition manichéenne entre magie blanche et magie noire est souvent retravaillée. La magie peut prendre place dans n'importe quel univers. Même si elle est davantage attachée au passé. Voilà, pour moi, c'est...
Harry Potter, c'est de la fantasy, par exemple ?
Oui.
Stéphane Marsan.
Ah oui, bien sûr que c'est de la fantasy. Enfin, sauf en France, où quand vous êtes en littérature jeunesse, tous les genres disparaissent magiquement, justement. Et du coup, on est à peu près le seul pays du monde où on ne considère pas Harry Potter comme de la fantasy. Mais évidemment, c'est de la fantasy. Mais c'est une fantasy dite du premier monde, c'est-à-dire où le merveilleux s'inscrit dans notre monde à nous. Où on passe sur un quai de gare, on traverse une porte magique et hop, on est dans un endroit différent et occulte. La fantasy dite du deuxième monde, c'est celle typiquement de Tolkien, c'est-à-dire dont la liberté créatrice invente un univers, des langues, des races, des peuples, une histoire, etc. Et propulse le lecteur dans, comme ça, une expérience extrêmement immersive. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles les jeux vidéo, par exemple, utilisent à fond la fantasy à cause de cette expérience.
Guillemette.
Bah, l'héroïsme. Parce que l'héroïque fantasy, c'est quand même pas pour rien. L'héroïsme, parce qu'effectivement, dans ce combat souvent entre le bien et le mal, la magie blanche et la magie noire, il y a effectivement le combat contre le mal, et il y a aussi des êtres, disons normaux, ou de petits êtres, ou des humains qui vont se battre contre des forces, voilà, des forces maléfiques, des forces qui sont normalement plus puissantes qu'eux, mais évidemment ils vont gagner à la fin.
Laurent Atin.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est cette notion d'univers second qu'a développé Tolkien, c'est-à-dire que la fantasy se place dans un univers non pas historique, mais non pas de science-fiction, mais détaché dans un autre espace-temps, un autre rapport à l'histoire. Ce n'est plus de l'historisme classique, c'est un autre espace-temps qui est le lieu propre du mythe. particulièrement. Ce qui est très amusant, par exemple, quand on relit Le Seigneur des Anneaux, c'est que les personnages, dans la première partie, sont eux-mêmes plongés à un moment donné dans un propre conte de fées. Dans un univers second, c'est celui de Tom Bombadil. Et c'est cet univers, justement, qui n'a pas été mis au cinéma, parce que ça faisait une répétition qui aurait été impossible à faire au cinéma. Mais là, on voit que les Hobbits vont eux-mêmes faire l'expérience d'un univers second, alors que nous, lecteurs, nous faisons l'expérience d'un univers second en lisant le roman.
Tristan Garcia.
Je dirais qu'un des points communs à mes yeux à l'essentiel de la fantasy, c'est le fait de considérer qu'il n'y a pas de poubelle de l'histoire, ou plutôt de systématiquement recycler tous les détritus apparents du progrès. Tous les codes, même les manières de se vêtir, le code d'honneur, les types d'organisation sociale, les croyances, les armes, etc., qui ont été laissés de côté par le progrès de l'histoire. Et de, alors ça peut être, c'est souvent un imaginaire médiéval, mais pas seulement. Il y a aussi un imaginaire antique, parfois, je pense à de la fantaisie qui peut se passer dans un imaginaire de cité grecque ou un imaginaire asiatique. Mais en tout cas, un point commun, me semble-t-il, c'est d'essayer de passer derrière le train de l'histoire et de récupérer tout ce qui a été laissé de côté par le progrès.
Anne Besson, peut-on dire que Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit notamment, est le père fondateur de la fantasy ? Est-ce que le Seigneur des Anneaux, c'est la matrice du genre ?
C'est ce qu'on dit toujours et c'est tout à fait vrai. Le genre maintenant ne naît pas avec Tolkien. Je l'ai rappelé, il est né une cinquantaine d'années
avec William
avant.
Morris peut-être.
Avec William Morris, c'est celui qu'on considère comme le premier à créer un de ces univers secondaires relativement complets, archaïsants, etc. Mais difficilement lisible aujourd'hui. En revanche, c'est Tolkien qui permet à la fantasy de prendre son essor et c'est lui qui irrigue l'essentiel des imaginaires jusque dans la fin des années 90 où d'autres locomotives vont venir prendre le relais.
Alors, il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas lu le Seigneur des Anneaux, eh bien que c'est un monde alternatif qui semble réel. Tolkien a créé un monde alternatif avec ses langues, sa géographie, sa mythologie, ses légendes, sans aucun rapport apparent avec notre monde. Est-ce que le monde décrit dans le Seigneur des Anneaux n'est quand même pas une allégorie de notre monde ? Ou alors c'est totalement différent de notre monde et c'est réellement un monde alternatif ?
Tolkien a eu des mots très forts contre l'allégorie, donc sa position est parfaitement claire. Il avait pour proche ami à Oxford C.S. Lewis, donc l'auteur des Chroniques de Narnia, qui lui écrit un monde afin de faire passer un message religieux, un message de catéchisme. Et Tolkien a détesté ça. Ils se sont d'ailleurs disputés à partir de ce moment-là. Lui, Tolkien, s'oppose totalement à cette lecture-là. On peut la faire néanmoins, mais c'est aller contre les intentions.
Christine Siméon.
Je ne sais pas, il était beaucoup question quand même de l'expérience de la guerre de Tolkien, qui a pu infuser malgré tout dans ce qu'il a imaginé, dans ses mondes, sur ses périls notamment. Donc là, je renvoie la balle aux spécialistes sur la question de la guerre.
Stéphane Marsan.
Je pense que ce qu'il est quand même bon de dire, c'est qu'un écrivain de fantasy, c'est un écrivain à part entière.
De son temps, de surcroît.
Oui, exactement. Donc forcément, il a une expérience, une sensibilité, une vision du monde, etc. Je note que cette émission s'appelle « Pourquoi la fantasy cartonne ?» et c'est déjà très bien, louée soit-elle. Mais ça veut dire que la fantasy, elle apparaît dans les médias à cause de ses chiffres de vente. Mais on ne parle jamais des auteurs et des écrivains qui sont derrière. Donc en effet, ce que vous thématisez là est tout à fait important. C'est l'intention d'un écrivain, d'un auteur avant tout, et ensuite l'inscription dans un genre qu'il crée ou qu'il participe à codifier à un moment donné.
Mais Christine Siméon, vous me le faisiez remarquer hors antenne hier, quand nous préparions cette émission, vous me disiez Tolkien, c'est pas un auteur de fantasy, c'est un auteur tout court, un immense auteur.
De littérature.
Ça commence à être de plus en plus dit, c'est une très bonne chose.
Anne Besson, Guillemette Odissino.
En fait, ce qui me fascine chez Tolkien, c'est que c'est cette plongée absolue. Et en fait, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a 40 000 couches à l'intérieur. On peut effectivement y voir beaucoup d'allégories, si on veut y trouver, même s'il n'est pas d'accord. Mais surtout, c'est qu'en inventant aussi une langue, en inventant toutes ces peuplades, il y a une manière de couvrir, l'humanité, j'allais dire, alors qu'il n'y a pas que des hommes là-dedans, mais de couvrir, comme Game of Thrones, après, va réussir aussi à le faire, de faire une espèce de portrait absolument global de tout ce qui peut animer et violenter l'humanité.
Laurent Aknin.
Oui, et puis il faut rappeler que Le Seigneur des Anneaux se place dans l'œuvre de Tolkien par-dessus une œuvre qu'il n'a pas pu achever de son vivant, qui est Le Silmarillion, où il raconte quasiment toute une cosmogonie complète à partir de la création du monde. Et c'est à partir de cette cosmogonie que se place au troisième âge Le Seigneur des Anneaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux âges qui précèdent, qui font partie de l'œuvre de Tolkien. Mais pour parler de l'allégorie, même si l'allégorie n'est pas volontaire chez Tolkien, il faut bien le croire. Il n'empêche, quand on lit ses œuvres, la comtesse, The Shire, c'est un portrait de la Grande-Bretagne telle qu'il la rêve ou qu'il l'imagine, d'une manière peut-être inconsciente, mais c'est évident que cette terre du milieu ressemble un peu à l'Europe, tiraillée entre deux forces, Atlantique et une force à l'Est. Enfin bon, mais même si l'allégorie n'est pas volontaire, c'est normal que ça transparaisse.
Tristan Garcia.
C'est intéressant de penser que Tolkien soit maintenant la figure tutélaire de la fantasy, parce que d'abord, en un sens, c'est assez tardif. Il y en a avant lui, il y a Lovecraft, il y a Dunsany, etc. Avant, on peut remonter beaucoup plus loin. Mais s'il est la figure tutélaire, il y a d'abord les années 30 et le Hobbit, c'est les années 50, le Seigneur des Anneaux. Mais me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste de la réception de Tolkien, mais si on s'intéresse vraiment à sa réception, c'est l'édition américaine dans les années 60, qui se diffuse sur les campus américains, qui est lue par les gens de la contre-culture, par les hippies. Du coup, Tolkien se retrouve dans il y a un effet de synchronie étrange avec la contre-culture de la fin des années 60 qui, là, est peut-être le début du moment où ça a marché.
C'est un grand malentendu, parce que Tolkien n'est pas reçu comme il aurait voulu l'être. Et vous dites que l'allégorie est évidente, mais il y a énormément d'interprétations différentes qui coexistent et qui s'affrontent.
Il y avait même un badge qui circulait sur le campus, Frodo Lives, Frodo est vivant.
J'aimerais terminer avec l'un des ingrédients essentiels peut-être que l'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de fantasy, c'est peut-être la quête. Anne Besson. Et oui. Dans Le Seigneur des Anneaux, il s'agit évidemment d'une quête inversée, se débarrasser de l'anneau.
Oui, beaucoup de romans de fantasy sont construits sur le même principe que donc le Seigneur des Anneaux de Tolkien, à savoir un grand voyage.
Une odyssée.
Menée. Oui, le modèle est davantage celui des romans arthuriens, celui des chevaliers en quête de Graal, tout à fait, plus que le modèle de l'Odyssée. Mais c'est bien l'idée. Maintenant, on constate tout de même, là encore, une vraie diversité, une vraie diversification du genre qui dépasse ces grands scénarios typiques.
Stéphane Marsan, très vite.
Oui, je pense que ça souligne quand même un aspect fondamental de la fantasy, qui est que c'est une littérature positive, c'est une littérature de l'espoir, de l'accomplissement, qui tranche singulièrement avec une conception ambiante qui essaye de nous faire croire que la littérature c'est dépressif et ça se regarde le nombril. Au contraire, la fantasy c'est un voyage dans des grands espaces et des gens qui accomplissent leur destinée.
Et ce soir dans Pop Fiction, nous nous intéressons à la fantasy, un genre qui passionne de plus en plus de monde. Réagissez sur franceinter.fr à la page Pop Fiction.
Believe, but there's no family.
Asaf Avidan, Over My Head, un titre choisi par notre programmatrice musicale Muriel Pérez, 20h23 sur France Inter, et il est temps de retrouver notre philosophe préféré, Thibaut de Saint-Maurice, qui va nous expliquer pourquoi un héros de Game of Thrones peut changer notre vie.
Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Porte cela comme une armure. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser.
Qu'est-ce que vous savez de ce que ça fait d'être un bâtard ?
Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père.
Tyrion Lannister, eh bien, c'est le nain charismatique héros de la série Game of Thrones. Et il peut changer notre vie, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, Ali, hein, parce que Tyrion est un formidable modèle de liberté. Il nous apprend à nous défaire de ces préjugés qui emprisonnent notre jugement, comme l'écrivait le philosophe anglais Bertrand Russell. En fait, il n'est jamais là où on l'attend. Il est assez impossible à enfermer dans une seule catégorie ou dans un seul type. Il se construit peu à peu, révèle peu à peu, livre après livre, ou bien épisode après épisode, toute sa capacité à échapper à son destin. Au lieu d'être justement un héros qui rencontrerait son destin et qui l'assumerait, ce qui est le propre des super-héros comme Batman ou Spider-Man. Tyrion, lui, est un héros qui refuse le destin qui lui a été tracé pour inventer sa vie, à la seule mesure de sa liberté, de son courage, de sa sagesse. Son héroïsme n'est pas des plus spectaculaires, mais il est des plus fascinants.
Tyrion, vous admettez avoir empoisonné le roi?
Non, je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Le crime qui consiste à être un gnome.
Alors dans cette grande lutte des grandes familles pour le trône de fer, Tyrion appartient à la famille Lannister. Ça devrait faire de lui un des hommes les plus puissants de Westeros. Mais comme c'est un nain qui plus est dont la mère est morte en lui donnant la vie, eh bien il est au contraire le vilain petit canard de la famille. Il se construit tout entier sur cette différence et comme il ne peut pas rivaliser par la force et par les armes, eh bien il préfère les livres, l'intelligence politique et certains pragmatismes. Dans la multitude des personnages que réunit Game of Thrones, sa différence finit par le distinguer comme le héros le plus positif et le plus attachant de cette fiction.
Mais Thibaut, d'où lui vient sa force, au-delà de sa différence physique, qu'est-ce qui le distingue au fond des autres ?
Eh bien, Tyrion, c'est un peu un héros existentialiste. Et c'est ce qui le rend plus libre et finalement plus fort que tous les autres. Alors l'existentialisme, c'est cette pensée philosophique proposée par Sartre dans son livre « L'être et le néant », selon laquelle un homme ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait. L'existence ne découle pas logiquement d'une nature ou d'une essence préétablie, mais au contraire, c'est l'existence d'un homme, la suite de ses choix, de ses actions, qui vont définir peu à peu son essence. Tyrion est né nain, apparemment maudit et décevant toutes les attentes de son père, mais il ne se réduit pas à cette nature-là. Il se montre justement capable de penser, de choisir et d'agir au-delà de cette condition physique. Bien qu'il soit nain et mal aimé, eh bien c'est lui qui sauve Port-Réal. C'est lui qui est le plus habile politiquement. C'est lui qui est capable d'aimer vraiment, sans se soucier de la condition de celle qu'il aime. Son existence contredit sans cesse sa condition de départ. Et c'est parce qu'il a compris cela qu'il est le plus libre que tous les autres. Et là, il l'a tellement bien compris qu'il est capable de l'expliquer à Bran Stark. C'est un des jeunes fils de la famille Stark, paralysé des jambes après avoir été poussé du haut d'une tour par Jaime Lannister. Eh bien, Tyrion va donner à Bran le moyen de dépasser son handicap et de remonter à cheval, moyennant la fabrication d'une selle un peu spéciale.
Tu as tiré sur moi. Non, tu n'es pas mon fils.
Je suis ton fils. J'ai toujours été ton fils.
Alors bien sûr, cette liberté absolue ne lui rend pas que des services. Elle le désigne aussi finalement comme ennemi aux yeux des siens. Et c'est elle encore qui lui cause bien des malheurs, mais c'est toujours elle qui lui permet de s'en sortir. Une des originalités de Game of Thrones, c'est de proposer des héros qui viennent des marges, qui incarnent une différence ou dont le destin n'a apparemment rien d'héroïque. Jon Snow est un bâtard, Arya est juste une petite fille qui ne veut pas être une dame, Brienne de Torth, elle, est une dame qui préfère être un chevalier, ou Khaleesi, qui est une héritière qui est presque quasiment vendue en mariage et qui pourtant devient reine. Bien que tous très différents, tous ces personnages incarnent toutes les facettes d'une liberté commune. Alors pour nous, spectateurs ou lecteurs, ils nous aident à trouver toutes les voies possibles pour échapper à nos destins apparemment tout tracés par la nature ou par la société. Ils nous rendent plus libres et c'est pour ça qu'on les aime tant et qu'ils peuvent, au fond, changer notre vie.
Merci Thibaut de Saint-Maurice.
Pop. Pulp ? Non, Pop Fiction. Ali Rubin.
Et dans Pop Fiction, nous nous intéressons à la fantaisie, un genre qui, du Seigneur des Anneaux à Game of Thrones, passionne le monde. Alors, au fond, que recherche le lecteur de fantasy, Stéphane Marsan, éditeur?
Le lecteur de fantasy, il cherche de l'évasion, il cherche de l'émerveillement, il cherche une lecture efficace et passionnante. Il cherche un récit qui répond à des questions fondamentales sur les archétypes, parce que la fantasy, c'est l'héritage, on l'a dit, des mythes, des contes de fées, du roman de chevalerie, du roman d'aventure du 18e, 19e qui a quasiment disparu. Enfin, c'est le dernier refuge du romanesque, hein, la fantasy. Et donc, dans cette immersion dans un autre monde où en même temps on retrouve des vrais gens, des êtres humains, le lecteur de fantasy trouve avant tout un plaisir de lecture et aussi... Il y a cette dimension initiatique, c'est-à-dire que le héros va accomplir son destin, se découvrir lui-même, faire des choix fondamentaux sur la vie, sur ses actes, sur l'amour, sur la politique, etc. etc. Et du coup, il y a une espèce d'engagement général du lecteur. C'est ça qui crée ce phénomène un peu fanique. Les lecteurs de fantasy ont tendance à devenir des fans et du coup ont parfois un peu de mal à communiquer sur leur passion, alors que la fantasy est devenue depuis longtemps une des littératures les plus vendues et les plus lues au monde. En fait, c'est la littérature la plus universelle à cause de tout ce qu'elle... de tout ce dont elle se charge et qui vient véritablement de la nuit des temps.
Tristan Garcia, romancier, philosophe.
Il me semble que ce succès quand même dit quelque chose de l'imaginaire contemporain et qu'on ne peut pas tout à fait le comprendre sans considérer un sort de rapport de frère ennemi ou de sœur ennemi avec la science-fiction et quand même une sorte de défaite depuis une trentaine d'années de l'imaginaire de science-fiction qui, avec l'abandon du programme spatial américain, après le cyberpunk qui au fond est presque devenu une littérature trop réaliste parce qu'elle a trop décrit ce qui a effectivement été le réel, les réseaux, le virtuel, etc., la science-fiction a vraiment marqué le pas. Moi, j'ai un souvenir, je ne sais pas s'il est exact, mais dans mon souvenir, enfant, en France, en tout cas, ce n'était pas le cas dans le monde anglo-saxon, j'étais très amateur de science-fiction. Quand j'allais dans les rayons, par exemple, de la FNAC, la fantasy était au bout du rayon science-fiction et c'était une sorte de petit addendum. Aujourd'hui, c'est le rayon de fantasy qui domine et la science-fiction est une sorte de petit à côté. Donc il y a un rapport de force quand même qui s'est renversé et qui, malheureusement, à mon goût, il peut être aussi le fait qu'il y a une difficulté de l'imaginaire contemporain à se projeter dans le futur, à projeter le possible dans l'avenir, dans la technique, dans la science, et que le triomphe de la fantaisie naît aussi d'une défaite ou d'une retraite de la science-fiction.
Christine Simeone de franceinter.fr.
Peut-être un petit côté doudou sur le passé, effectivement, parce que moi, ce que je note, c'est qu'en plus de ce phénomène-là que vous disiez sur la fantaisie tournée vers le passé, le Moyen-Âge, moi, ce que je vois aussi, c'est l'engouement pour les spectacles médiévaux. Il y a tout un marché autour de ça, et je me dis vraiment, ce Moyen-Âge, il doit nous rassurer quelque part, alors qu'on a appris à l'école il y a longtemps que c'était obscurantiste, alors on s'en fout aujourd'hui, ça n'a plus d'importance, ça nous rassure. Ce côté rapport à la nature aussi, peut-être. Que vous évoquiez en début d'émission.
Laurent Aquenin, historien du cinéma.
Oui, ce qui est certain, c'est que dans le domaine de la science-fiction, par exemple, depuis pas mal d'années, on assiste à la défaite, à l'anéantissement du space opéra. Il n'y a plus vraiment de conquête de nouvelles planètes, et c'était le constat que fait Christopher Nolan dans Interstellar. Et d'ailleurs, c'est plus vraiment question de planète, c'est question de temps. Donc on change encore de rapport à l'univers. Alors que dans la fantasy, justement, l'autre monde, qui n'est plus dans le futur, qui n'est plus au-delà dans les planètes lointaines, se place dans un espace-temps imaginaire qui offre toutes les possibilités. Et c'est dans cet espace-temps imaginaire qu'on va rejouer la fonction du mythe. Un mythe, ça sert à quoi? Ça sert, bien sûr, quand on raconte un mythe, ça sert à distraire, mais il y a aussi une fonction consolatoire et il y a aussi une fonction explicative. Par le mythe, par les actions de personnages dans leur quête initiatique, dans un espace-temps mythique, on comprend notre monde, parce que c'est à cela que ça sert, un mythe, c'est de mettre de l'ordre.
Anne Besson.
Je crois que la fantaisie touche chez les lecteurs ou les spectateurs, chez les gens, quelque chose de très profond et même d'archaïque, quasiment, hein, c'est ce que vous dites à travers cette idée de mythe, qui peut être effectivement du côté de la réassurance, de l'enfance, hein. Très clairement, le retour au Moyen-Âge, c'est un retour à l'enfance, mais aussi, pas forcément seulement dans ce côté très doux. Ce que nous fait Game of Thrones, c'est de la violence, elle nous fait violence. Au contraire, c'est pas quelque chose qui va nous caresser dans le sens du poil. Donc il faut voir dans cet archaïsme de la fantasy la noirceur auquel aussi elle nous donne accès en nous.
Guillemette Odissino de Télérama.
Oui, je veux reprendre la notion de l'enfance, parce qu'en fait, la fantaisie, c'est pratiquement à chaque fois un « il était une fois ». C'est un conte, alors effectivement, où il y a des forces maléfiques, il y a des dragons, il y a des princesses, voilà, d'une certaine manière. Donc en fait, c'est vraiment ce « Il était une fois » qu'on nous racontait enfant et qui pouvait nous faire trembler aussi d'ailleurs. Parce que les contes, on a toujours su, sont extrêmement sanglants, nous racontent des horreurs. Donc voilà, c'est une façon de perpétuer aussi ce « Il était une fois » de l'enfance, quoi.
Alors on a des réactions sur Twitter. À vous écouter, la fantasy se limite à Tolkien et Game of Thrones. Où sont les Pratchett, Zelzani et Jaworski, que je ne connais absolument pas. Comment on dit ? Bah non, mais moi je lis ce qu'il y a sur mon... Qu'est-ce que vous dites, pardon ?
Zelazny.
Voilà, Zelazny, Stéphane Marsan.
Ah ben oui, j'aurais pu faire ce tweet.
Je rappelle que vous êtes éditeur.
J'ai 200 auteurs de fantasy au catalogue. Hein. Bien sûr, la fantaisie, c'est une littérature populaire, c'est une littérature vivante qui se renouvelle sans cesse, qui nous raconte parfois de nouveau des histoires connues et qui parfois part complètement en live. Et parce que c'est avant tout, vous l'aviez très bien dit, c'est il était une fois. Donc en fait, je n'ai pas besoin de vous dire où, comment, pourquoi. Je n'ai pas besoin de vous demander si c'est possible. Je vous dis, dans un trou, vivez un hobbit. Vous, voilà, vous prenez, ok, on est parti, on va faire un voyage. Vous prenez pas, ben vous y êtes pas. Donc un exemple éclatant, par exemple, ces dernières années, c'est un roman qui s'appelle Le Nom du Vent. Le Nom du Vent, ça nous raconte l'histoire d'un gamin orphelin qui va devenir un grand magicien.
Et Patrick Rothfuss.
Patrick Rothfuss. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein, gamin orphelin magicien. Sauf qu'il le fait avec une élégance, une profondeur, une ambition, qui fait que des millions de lecteurs ont été sous le charme. Donc, le propre du genre, c'est de raconter à nouveau une histoire qui va vous apporter le même plaisir, mais qui en même temps développe, en effet, un catalogue extraordinaire d'écrivains différents et de sensibilités
Laurent
diverses.
Laurent
Ce que j'aime beaucoup, c'est la notion « rien de nouveau sous le soleil ». Ça prouve bien qu'on est vraiment dans le royaume des archétypes. Et quand on parle du retour à l'enfance et de la noirceur, un psychologue jungien va se régaler avec ça, parce que bien sûr, le héros va trouver sa part d'ombre à chaque fois, et ça, c'est le côté cruel qu'on a dans la fantaisie. Et puis, quand on, voilà, enfant, magicien, orphelin, on est bien sûr dans des archétypes très connus. Allez, je recite les auteurs français de fantaisie pour faire plaisir à Stéphane Marsan. Pratchett, Zelazny et Jaworski.
Alors, ils sont pas français.
Alors, je lis mon tweet. Alors,
ceci dit, c'est pas mal.
C'est le tweetos qui a 14, alors.
C'est pas mal de dire qu'il y a des auteurs français.
Voilà. Parce que,
ça fait 20 ans qu'il y a aussi des auteurs français.
Alors, Anne Besson, il y a une réaction pour vous. Pourquoi traduire fantasy, donc le nom anglais, par fantasy
Fantasy, par fantasy. Voilà.
C'est ma manière de prononcer ?
Non, c'est pas du tout ça. Mais pourquoi est-ce que, de manière générale, on traduit fantasy par fantasy, F-A-N-T-A-I-S-I-E ?
Non, on ne le traduit pas.
D'accord.
C'est
un auditeur qui se pose la question.
Ça doit être ma façon de le prononcer.
Oui, ça s'écrit en fait. Toujours avec SY.
Mais c'est bien de le dire,
mais
c'est un anglicisme
dans
en fait.
C'est pas absurde de dire ça, parce que c'est quand même ça l'origine. Hein. L'origine, c'est le mot français AISIE, et c'est la liberté, c'est le caprice. C'est un très beau mot, hein. Ma fantaisie, c'est je fais ce que je veux, donc ça correspond bien au genre. Le problème, c'est qu'en français, le mot fantaisie, il est complètement dévalué. On dit des bijoux fantaisie, des chaussures fantaisie, donc c'est de mauvais goût, c'est du toc. Alors que les Anglais, enfin les Anglo-Saxons, ont complètement réinvesti et ont même brandi le terme pour justement assumer la liberté créatrice de ce genre.
Alors la grande force, pardon,
ça,
allez-y,
ça dit
Tristan
quelque
Garcia.
Chose. Enfin, l'histoire même du mot et sa circulation entre la France et l'Angleterre dit quelque chose. Ça vient de la France. Il y a Perrault. Il y a les contes de fées très tôt en France, plutôt même qu'en Angleterre. Et bizarrement, au moment où il y a la fantaisie d'abord victorienne puis édouardienne en Angleterre, après le romantisme français, il y a quand même une sorte de reflux en France qui est très net. Et du coup, cette littérature aussi s'est retrouvée très minoritaire en France pendant au moins un siècle, alors qu'elle a aussi des origines françaises.
Alors la grande force de la fantaisie, c'est qu'on peut se réapproprier les œuvres comme on veut, à travers les jeux de rôle, les discussions sur Internet, les jeux vidéo, les conventions de fans, les visites des lieux de tournage, notamment les lieux de tournage de Game of Thrones. Anne Besson.
Oui, on parle de roman depuis le début de cette émission, ce qui est une très bonne chose. Néanmoins, il est clair que le succès de la fantaisie qui nous occupe aujourd'hui est vraiment tiré par des productions audiovisuelles et des productions ludiques. C'est-à-dire que vraiment, le rôle, la place du jeu de rôle, puis du jeu vidéo, du MMORPG, est fondamentale.
C'est quoi ça ?
MMORPG, les multiplayer, massively multiplayer online, role-playing game, les World of Warcraft, voilà. Ouais, ces grands univers.
Les jeux vidéo à univers persistant, c'est ça ?
C'est ça. Voilà. Où on joue justement à être
mais
un
joue
personnage de ces, voilà. De ces univers. Et c'est vraiment ça qui tire le secteur et qui continue à très bien marcher quand la lecture de la vente de romans peut marquer un peu le pas.
Guillemette Audicino.
De toute façon, les bouquins de Georges R. Martin n'ont commencé à vraiment exploser la baraque en termes de vente que... au moment où la série a cartonné. Hein. Il en vendait un peu, mais il en vendait pour des aficionados et tout. C'est à partir du moment où la série télé de HBO a pris cette ampleur, mais mondialissime, qu'il s'est mis vraiment à vendre énormément de livres.
Laurent Acquenin.
Je voudrais quand même rappeler un chaînon manquant dans tout ça, c'est le jeu de plateau Dungeons & Dragons, qui a contribué à toute une génération pour s'immerger dans l'univers de la fantasy. Ça, c'est une étape vraiment fondamentale.
Tristan Garcia, vous avez joué à...
Ça, moi, je n'étais pas extrêmement joueur, mais ça a joué un rôle dans la contre-culture. Mais à côté de ça, dans le succès actuel, il faut quand même souligner le rôle de décision industrielle, d'abord de la part de Hollywood, puis dans les séries de la part de HBO, dans le fait de s'intéresser à la fantasy, en sachant que c'est très coûteux à produire. Mais il y a quand même une décision de la part de l'industrie du cinéma américain, à un moment, d'investir massivement dans Le Seigneur des Anneaux et dans tous les succès d'année jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils vont adapter Orson Scott Card, Le Septième Fils, etc.
C'est pas une adaptation de Scott Card. On le croit, mais ça n'est pas une adaptation du roman qui s'appelle Le Septième Fils. C'est une adaptation de L'Épouvanteur. C'est très curieux.
Ah d'accord. Oui, je croyais que c'est en voyant les affiches, je pensais que c'était
moi aussi,
Card.
Bien sûr, hein, j'ai regardé la bande-annonce avec passion, et non.
Et donc,
de ce point de vue, en tout cas, il est intéressant de voir qu'avant cette décision, l'imaginaire cinématographique et télévisuel de fantasy est quand même très pauvre. Il y a des exceptions.
Il y a quelques petites choses.
On parlait avant de Conan.
Dans les années 80, il y a Conan.
Au cinéma, il y a Conan. Il y a beaucoup d'échecs, Legend.
Ça a quand même lancé la carrière de Schwarzenegger. Je suis désolée, c'est une date dans l'histoire.
Il y a extrêmement peu de films de fantasy. Vous avez tout à fait
raison. Il y en a peu. Il y a Ridley Scott.
Willow, produit par George Lucas, qui était un échec aussi.
Qui est un échec. Et il y a l'échec énorme de Légende de Ridley Scott, qui dit bien le fait que Scott, quand même si c'est un échec commercial, réussit son Blade Runner, réussit une œuvre ultime de science-fiction, mais rate son œuvre ultime de fantasy.
Allez, continuez à réagir sur franceinter.fr.
side of the moon. On the dark side of the moon. On the dark side.
Non, pop fiction. Ali Rebi.
Arthur H., l'autre côté de la lune, 20h44 sur France Inter. Et on s'intéresse ce soir dans Pop Fiction au succès de la fantasy, du Hobbit au Seigneur des Anneaux, en passant par Game of Thrones.
Winter is coming.
Winter is coming.
Winter is coming.
Winter may be coming.
Winter is coming.
But now winter is truly coming.
Winter is coming.
Winter is coming for him.
And winter does
winter
come.
Is winter is coming.
And winter is coming.
Alors, prenons le cas de Game of Thrones, la série adaptée du Trône de Fer de J.R.R. Martin. C'est un immense succès éditorial et télévisuel. C'est la série la plus piratée, la plus téléchargée au monde. Game of Thrones se déroule dans un Moyen-Âge alternatif, sur deux continents fictifs, Westeros et Essos. Plusieurs grandes familles bataillent pour accéder au Trône de Fer et régner sur le royaume des Sept Couronnes. Anne Besson, j'ai l'impression que l'œuvre de J.R.R. Martin a élargi le public habituel de la fantasy.
C'est-à-dire que beaucoup de gens, justement, qui avaient ces préjugés dont nous parlions au début, notamment sur le côté mièvre de la fantasy, ils sont ont été radicalement guéris par le Trône de Fer, par Game of Thrones. Ceci dit, j'ai l'impression que cette série s'est quand même inscrite dans un mouvement général de reconnaissance du genre, qu'elle a peut-être été de nouveau recherchée une nouvelle génération qui doit toujours être renouvelée, mais qu'elle a pris la suite des gros succès dont on a parlé.
Christian Garcia.
Ah, pardon.
Ou Guy Métodiciel, allez-y.
Je pense que c'est quand même la trilogie de Peter Jackson, la première, qui a vraiment ouvert la voie, qui a finalement épaté par aussi son souffle épique. Parce qu'effectivement, là, le côté cucu, pour le coup, a été complètement, hop là, s'est envolé devant ce souffle d'aventure. Et je pense que sur un écran, les gens, finalement, ont compris plus ce que pouvait porter que la fantasy pouvait porter, ce côté en fait grand film d'action aussi.
Tristan Garcia.
Il me semble qu'on pourrait presque lire Game of Thrones comme la possibilité d'un apprentissage, d'une sorte de propédeutique pour les gens qui n'aimaient pas la fantasy pour apprendre le genre. Parce que ça part d'un monde à faible teneur en fantasy quand même. Les dragons ne sont même pas encore nés, la magie, il y a des poches, mais tout ça est inquiétant. C'est aux limbes de ce monde, de l'autre côté du mur, sur un autre continent. On part d'un monde où il ne semble y avoir que des rapports de force politique qui donnent des gages de réalisme politique et de réalisme social, de réalisme visuel aussi dans la série, et qui en un sens compte une sorte de retour de l'irrationnel ou du religieux qui monte petit à petit avec les croyances qui reviennent, les croyances anciennes qui semblent remonter à la surface, les dragons, la magie, un certain nombre de signes, les créatures fantastiques aussi, les géants de l'autre côté du mur.
À vous écouter, Game of Thrones a plus de points communs avec Shakespeare ou les rois maudits, c'est la grande référence de Martin, qu'avec Tolkien.
Pour Martin, c'est évident.
George Martin l'a dit lui-même. Son modèle, c'est les rois maudits de Maurice Boulion.
Et Shakespeare aussi. Ouais.
Bah oui, mais en fait, Game of Thrones, le Trône de Fer, parce que on parle de livre. Le livre, il s'appelle Le Trône de Fer. Il est sorti il y a 20 ans. Il n'est pas sorti il y a 3 ans. Ouais. C'est un roman historique qui se passe dans un endroit qui n'existe pas, purement et simplement. Et c'est là sa force dramatique et c'est là sa capacité d'attrait d'un plus large public. Je voudrais quand même dire que la fantasy, ça cartonne pas depuis 3 ans. Ça cartonne depuis 40 ans aux États-Unis et 25 en France. Dès milieu des années 80, il y avait des séries qui se vendaient en dizaines de milliers d'exemplaires, sauf que absolument personne n'en parlait, parce qu'il n'y avait pas cette visibilité médiatique liée aux adaptations au ciné et télé.
Oui, mais enfin, comme on l'a entendu répéter suffisamment, l'hiver arrive, the winter is coming, donc et l'hiver arrive, et quand l'hiver arrive, c'est pas, ça a pu être question uniquement de politique et de rapport de force qui fait la fascination de la série, mais cette espèce de danger qui plane comme ça et de force du mal qui avance doucement. Là, du coup, on est doucement dans la fantaisie.
Laurent Aknon.
C'est-à-dire qu'on parlait de Shakespeare tout à l'heure. C'est vrai que Tolkien, lui, n'aimait pas Shakespeare. Il lui reprochait, surtout dans Macbeth, de ne pas être allé jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire de faire un univers vraiment de fantaisie. fantasy. Du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, il a fait plusieurs chapitres où il inverse. La forêt avance vraiment, il invente les Ents. Quand il y a quelqu'un qui ne peut pas être tué par un homme, parce que si c'est vraiment une femme, ce n'est pas une astuce de jeu de mots comme dans Macbeth. Mais il faut voir aussi quelque chose, à mon avis, que ce soit au cinéma ou à la télévision, par rapport à la fantasy, c'est qu'on est arrivé maintenant à une avancée technique au cinéma d'abord, et puis maintenant aussi à la télévision, qui permet de produire à l'écran, le grand et ensuite le petit, ce qui est fondamental pour la fantasy, c'est-à-dire l'effet de réel. C'est-à-dire de concevoir un univers global sur lequel qui ne soit plus kitsch, comme il y a encore 20 ou 30 ans à l'écran, mais qui fasse vrai. Et ça, c'est fondamental pour la fantasy, même si ça paraît paradoxal.
Tristan Garcia. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un lien organique entre le numérique, l'imagerie numérique et la victoire de la fantasy. Ça donne des moyens de représentation qui évitent la théâtralité, en fait. Exactement. Qui évitent l'impression de décor en stuc.
Que nous dit Game of Thrones sur notre monde contemporain, Anne Besson?
Ça nous dit quelque chose de sa violence, je pense, et ça nous donne aussi, ça nous dit quelque chose, ce qui est une quête très frappant dans Game of Thrones, c'est l'ouverture des possibles qui sont représentés par l'impressionnante galerie de personnages qui sont dépeints et dans lequel chacun va pouvoir aller chercher une part de soi et des personnages qui eux-mêmes sont très complexes, sont évolutifs, etc. Donc, je pense que le succès particulier de cette série au sein du succès de Fantasy est lié à cette richesse des possibles auxquels elle donne accès et qui est quelque chose que le public d'aujourd'hui recherche manifestement.
Christine Simeone.
Non, bah, moi je voulais juste, ça me faisait penser juste que c'est John Howe, j'arrive jamais à prononcer son nom, l'illustrateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, en fait, qui parle de monde maigre en parlant de Fantasy et des multiples histoires possibles comme Game of Thrones ou d'autres. Il y a attention dans la Fantasy, souvent, malgré justement toutes ces possibilités techniques qu'on peut avoir aujourd'hui de recréation de monde, etc., on a parfois affaire à des mondes maigres, c'est-à-dire avec peu d'ampleur ou peu de multiplicité de créatures, etc.
À propos de John Howe, il faut rappeler le très beau bonus sur franceinter.fr.
Oui, oui, absolument. Alors, sur franceinter.fr, sur la page de Pop Fiction, sur la page de Pop Fiction, effectivement, un portrait de John Howe, illustrateur de tout temps du monde de Tolkien, y compris pour le dernier Hobbit qui est sorti au cinéma. C'est une production avec Bande à part magazine de cinéma que vous pouvez télécharger sur vos tablettes et sur vos smartphones. C'est gratuit. Et lisez ce portrait de cet illustrateur justement qui raconte à quel point, d'ailleurs, on ne pourra jamais peut-être percer le génie de Tolkien, même si l'on connaît tous ses secrets, qui dit aussi que la Terre du Milieu est encore inexplorée et qui nous explique autrement aussi, vous pouvez le faire presque par vous-même, c'est-à-dire
recréer
certains des décors du Hobbit en cliquant comme ça étape par étape sur la constitution d'un dessin à partir d'un paysage réel, y compris dans la vallée du Rhin par exemple, une étape après l'autre, vous faites apparaître un ciel, un dragon et ainsi de suite un château pour Crystal Castle.
Voilà. À voir sur franceinter.fr, à la page Pop Fiction.
Sur la page de Pop Fiction, vous l'avez, c'est Bande à part, magazine de cinéma, superbe
très
magazine
beau, très beau
digital,
magazine digital
consacré au cinéma.
Alors, pour terminer, pour conclure, ce qui est formidable quand même avec Game of Thrones, avec la fantasy en général, c'est l'apparition d'une communauté fervente sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, pour discuter, pour jouer. Stéphane Marsan, vous le voyez, vous, à travers les éditions Bragelonne.
Et évidemment, en fait, je crois qu'on a été le premier éditeur français à avoir un forum internet. Tout simplement parce qu'il y a un besoin de partager ensemble le plaisir, l'émerveillement de ces lectures. Et je pense aussi une floraison qui est aussi liée à la créativité. Et je l'ai pointé tout à l'heure aux auteurs français, parce que finalement, on parle beaucoup d'auteurs américains, mais les auteurs français, les lecteurs peuvent les rencontrer. Et du coup, là, il y a un contact et un partage aussi sur des imaginaires qui parfois ont aussi des influences européennes.
Allez, très 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 vite, une œuvre de fantasy à lire absolument pour ceux qui n'ont jamais lu. Tristan Garcia, qu'est-ce qu'il faut lire?
Alors, une œuvre anglo-saxonne pour changer un peu des références de ce soir, Jane Wolfe, L'ombre du bourreau, et une œuvre française récente de Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre.
Et Guillemette, Odissino, très vite.
Oui, alors moi, ce n'est pas une œuvre de fantasy, mais c'est en fait les coulisses de Game of Thrones. Voilà, les coulisses de toute la série. Et même, il y a aussi J.R. Martin qui vient de faire un livre, mais somptueux, sur la genèse de tout ce monde. C'est Westeros expliqué à tout le monde avec des arbres généalogiques, des illustrations, c'est sublime.
Merci à tous d'être venus dans notre émission. Vous pouvez retrouver toutes les références biographiques et bibliographiques sur franceinter.fr à la page Pop Fiction. Et il est temps de retrouver notre ami Laurent Bourdon.
It's vintage.
Paris, vous êtes allé plusieurs fois au cinéma étant gosse.
Vous avez déjà mis en scène Jane Arlo, Carole Lombard.
It's vintage.
Rebonsoir Laurent Bourdon.
Re.
Il paraît que votre fils adore la fantasy.
Les nouvelles vont vite. Il adore ça. Oui, absolument. Il aime l'action, il aime l'humour aussi qui est dans ce genre de film. Et c'est cette création totale, ce monde effectivement alternatif, comme vous avez dit tout à l'heure. Il adore ça, cette invention permanente.
Revenons à nos moutons. Cette semaine, en partenariat avec le site de vidéo à la demande filmotv.fr, vous nous proposez un bonus très cannibale.
Oui, le film Amour cannibale qui sort mercredi prochain. C'est l'histoire d'un distingué tailleur pour dames, assassin et cannibale. Une fois occises, ses victimes sont découpées en réguliers filets, immédiatement déposés au congélateur. Surtout, ne pas rompre la chaîne du froid. Le soir venu, c'est à la poêle qu'il les saisit, à point ou bien cuit, selon l'humeur. Austère thriller, cette ibérique production multi-récompensée est très éloignée des films d'horreur où les amateurs de chair humaine se trouvent généralement plus à leur aise. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un cannibale s'aventure hors du ghetto. Souvenez-vous de Soudain l'été dernier de Mankiewicz en 1959, d'après Tennessee Williams, dans lequel un jeune homme de bonne famille sert de plat de résistance à une bande de mendiants affamés, le tout sous les yeux de sa chère cousine, Elizabeth Taylor, soi-même, qui en demeurera, c'est humain, un poil déstabilisé. N'oublions pas non plus Weekend de Jean-Luc Godard en 1967, à la fin duquel Mireille d'Arc dévore goulûment Jean-Yann, son mari, ainsi que Porcherie de Pasolini 1969, où Pierre Clémenti bouffe non du curé, mais du militaire. La même année, dans La Semence de l'Homme, un film d'anticipation très oublié de Marco Ferreri, une jambe d'Annie Girardot, dûment assassinée au préalable, je vous rassure, servira de pitance aux deux derniers survivants de la planète. En 1995, dans Deadman de Jim Jarmusch, Johnny Depp doit filer doux devant un chasseur de primes cannibale avant de participer lui-même, 12 ans plus tard, à la fabrication de jolies tourtes farcies à la chair humaine dans Sweeney Todd de Tim Burton. Le même Tim Burton qui, 2 ans plus tôt, près de la bruyante cascade à chocolat de Charlie et la chocolaterie, lui faisait dire
« Tout ce qui est dans cette salle est comestible. Même moi, je le suis. Mais ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants. Et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. »
Il est déjà 20h55. Je vais mettre les bouchées doubles. Et passer maintenant à Blood Feast, en bon français, orgie sanglante. Premier film gore de l'humanité sorti en 1963, Blood Feast retrace les louables efforts d'un tueur en série d'origine égyptienne et par ailleurs épicier traiteur pour recycler les restes de ses victimes en zakouski très prisé. Il se doit dans un film gore, le sang coule à flot lorsqu'il découpe la jambe de l'une, le cervelet de l'autre, la langue de la troisième, mais... Trop c'est trop, il sera démasqué pour avoir voulu transformer en canapé et petit four la fille de sa meilleure cliente. C'est là que l'Égyptien se dira in petto et dans sa langue, les kérottes sont cuites. Ne pouvant, malgré la réprobation générale, pouvant repousser le flash info de 21h à minuit et demi, je vous laisserai découvrir par vous-même les œuvres facilement repérables sur le premier moteur de recherche venu, tels que La secte des cannibales, La montagne du dieu cannibale, ou encore Cannibal Holocaust, film à voir absolument sur filmotv.fr. De la même façon, vous n'avez pas besoin de moi pour entrer en contact avec les cannibales de Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux et autres silences des agneaux. Ah, Hannibal Lecter, un homme de goût qui s'est marié les mets et les vins.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Pour digérer, achons plutôt cette trop brève chronique gastronomique par « Aimez-vous les femmes ?», une curiosité de 1964 dont le scénario est l'œuvre d'un inconnu d'à peine 30 ans, tout juste débarqué de sa riante Pologne natale, Roman Polanski. Unique film de Jean Léon, assistant d'Alain Resnais depuis Hiroshima, mon amour, c'est dire son goût pour la comédie, « Aimez-vous les femmes ?» Aimez-vous les femmes met en scène un neveu et sa tante, Guy Bedos et Edwige Feuillère, dans un restaurant végétarien. Le jeune homme y fait la connaissance d'une adorable jeune fille, Sophie Daumier, et de sa sœur jumelle, Sophie Daumier, Itou. Mais en fait, de restaurant végétarien, l'établissement est fréquenté par de raffinés gastronomes aimant vraiment les femmes. C'est ainsi que l'une des deux jumelles passera à la casserole et l'autre à la marmite.
Vous savez quoi, Laurent Bourdon, je ne reprendrai pas de roast beef ce soir. Hein. À la semaine prochaine. Et j'aimerais vous signaler un très beau cycle au Forum des... Peut-être un mot rapide alors.
Ah bah c'est Coluche sur FilmoTV. Voilà. Très vite. Rendez-vous avec Coluche, très vite. Les films de Coluche et puis un interview, une rencontre exclusive avec Luis Rego qui l'a super bien connu. Donc Coluche sur FilmoTV.fr.
Et j'aimerais vous signaler un très beau cycle au Forum des images à Paris. Des films effrayants, dérangeants qui parlent de nos peurs plus ou moins métaphoriques d'être contaminés par des virus, des bactéries, des maladies. Dans ce cycle Contamination, vous pourrez notamment voir L'Armée des douze singes, La chasse de William Friedkin, Alien de Ridley Scott, mais aussi Grand Central de Rebecca Zlotowski. Plus d'infos sur notre page Pop Fiction sur franceinter.fr. À la technique ce soir, il y avait David Federman et Jonathan Kielsa. Merci à la documentation de Radio France. À suivre Coming Up de Valli.